Bon midi. Bienvenue à cette nouvelle émission. On en jase avec Jeff Fortin et Pascal CV sur l'heure du midi. De midi à 14h, on va jaser d'actualité, d'affaires publiques et de politique. On va tenter de vous informer et vous divertir de la meilleure façon. On va jaser un peu de sport aussi, c'est certain. J'adore le sport. On va parler de Félix Auger-Aliassime tout à l'heure. Un week-end parfait, 2 victoires face à des top 15 mondiales, face à Alexander Zverev, le 3e, et Alexander Roubiev, le 15e au monde. Donc, on va jaser de tout ça pour nous joindre. 418-971-1021. Interagissez juste en match. J'adore vous lire en ondes. J'adore vous parler. J'adore connaître votre opinion. Également disponible sur twitch.tv/BLVD/FM. On est disponible aussi sur l'application BLVD 101 sur App Store, Google Play Store. Et vous pouvez nous écouter via la web radio BLVD.FM. Et on retrouve également les meilleurs moments de chacune de nos émissions. Nouvelle programmation, on a commencé ça avec Marceau ce matin. Le point de Max, on en jase. Et par la suite, ça sera le retour de Gravel avec Denis Véraud et Audrey Pascal CV. Comment ça va dans ce nouveau défi professionnel?
J'aurais voulu le savoir.
T'aurais voulu le savoir quoi?
Ça, c'est ce que j'ai entendu tout le matin avec François Legault.
Oui,
j'aurais voulu le savoir.
Salut,
Jeff.
Ça va bien?
Ça va très bien. T'as-tu passé un beau week-end?
Bah, vraiment, super beau week-end. Comme d'habitude, on a profité de la ville de Québec. Rien qu'en masse, elle est si belle. Profitons-en au maximum. Toi, comment a été ton week-end?
Très sportif. On est dans les dernières heures avant le Kilimanjaro. Donc, la cuisse se fait aller. Autant Mont-Saint-Anne, escalier des chutes Montmorency, Mont-Wright. Et beaucoup d'actualités. On est en selle aujourd'hui pour cette première-là dont on en jase.
Exactement. Donc, vous partez quelle date exactement pour le Kilimanjaro?
Le 26 septembre. Donc, le 25, je te quitte officiellement après l'émission.
Parfait.
Ensuite, on se retrouve en octobre.
Excellent. Très hâte que tu viennes me raconter tout. On va se faire de quoi dans cette semaine-là. Joanie Fortin va venir s'asseoir avec toi en studio.
Superbe.
On va parler de votre défi. C'est certain. Dans l'émission, on en jase le midi sur les ondes de Boulevard 101. On va toujours commencer ça de façon percutante avec mes amis.
Le caucus. Boulevard. Le caucus. 102.1. Voici Antonine Iaccarini.
Ouh!
Hein, comment tu trouves ça, Anto?
J'adore mon jingle.
Oh yeah! On va commencer ça avec le caucus. C'est un segment qui aura lieu du lundi au jeudi dans On en jase le midi sur Boulevard 102.1 avec nul autre que Antonine Iaccarini. Antonine, avant de te céder la parole, il faut que je t'avoue quelque chose.
Oh non, quoi?
Quand les boss m'ont dit « Hey, Jeff Fortin, on veut que tu fasses une émission d'actualité d'affaires publiques sur l'heure du midi », c'est qui parmi tous les chroniqueurs que tu connais au Québec que tu veux travailler? On est ouvert. J'ai dit, ben c'est avec Antonine Iaccarini. Moi, je veux jaser.
Un homme de goût.
Un homme de goût, hein, c'est ça. Hein?
Je suis d'accord
exactement.
Avec ça, moi.
Ouais.
Je pensais que j'allais être modeste et dire, oh, c'est trop gentil. Mais non, tu as du goût.
Non, mais je te l'explique pourquoi. Je suis convaincu qu'on va avoir des discussions intelligentes et intéressantes. On ne sera pas dans la radicalisation des opinions. Donc ça, pour moi, c'est très important. On va avoir des discussions qui vont être très conséquentes. Fait que pour moi aussi, c'est très important. Puis on va être les meilleurs là, pour informer les gens.
Première au repêchage.
Ouais,
première au repêchage. Je remercie mes patrons. Je sais qu'ils ont travaillé très, très, très fort avec toi pour t'amener en onde 4 fois par semaine. Je te remercie pour ton ouverture également d'esprit de travailler avec nous. Je suis certain que ça va être un réel bonheur, pas juste pour moi, pour tous nos auditeurs à Boulevard 102.
Non, puis vraiment, c'est un privilège pour moi d'être à tous les midis dans cette émission. Le but, c'est, bien, premièrement, tu l'as dit, là, on va être rigoureux, on va faire de l'analyse ensemble. Mais moi, ma passion, c'est vraiment d'aller plus loin que les grands titres.
Exactement.
L'actualité est dense, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de bruit. Qu'est-ce qui est vraiment important à travers tout ça? On va essayer de démêler ça. Puis aussi, aller dans l'envers du décor. Comment les décisions se prennent? On va aller plus loin ensemble. Puis moi aussi, j'ai super hâte d'avoir les commentaires des auditeurs. J'adore quand ils nous écrivent. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas.
418-971-1021, je le rappellerai jamais assez. C'est le numéro pour nous joindre en studio, poser toutes vos questions au niveau de Antonine et de moi-même, et ça va nous faire plaisir d'y répondre.
Je pense que ce qui est intéressant aussi d'avoir Antonine avec nous, tu connais tellement l'envers du décor, tu as été dans un corridor, tu as encore bien des gens autour de toi qui sont en politique. Souvent, les aspects d'actualité, tout le monde est au courant. Ça jase partout en temps et lieu. Si vous avez des petites affaires que vous dites... hey, on n'a pas eu assez le temps d'aborder ça, ou ça, là, ça me démange, puis c'est pas la priorité en ce moment dans l'actualité, je suis certaine qu'Antonine va pouvoir répondre. Fait que ça va être une bonne façon de le faire ici dans le caucus.
J'en suis convaincu. Sautons dans le vif du sujet, parce que je lève ma tête depuis 9h ce matin sur la télévision qu'on a en studio, puis je vois-tu pas notre premier ministre, François Legault, qui est en train de se débattre comme un diable dans l'eau bénite face au commissaire Galland. C'est un 3h très pénible dans sa vie, j'en suis convaincu. Qu'est-ce que t'en retiens jusqu'à présent du témoignage de François Legault?
Mais d'abord, je pense que quand M. Legault a déclenché cette commission d'enquête, il ne s'imaginait pas assis sur cette chaise-là.
Parce que le premier ministre depuis Jean Charest en 2011, la fameuse commission Bastarache, les post-it de Chantal Landry pour dire « Nomme ce juge-là, nomme pas lui! »
C'est gros, là, un premier ministre qui se retrouve dans une commission d'enquête qu'il a lui-même déclenchée.
Ouais.
Ça, c'est la première des choses qui me frappe, évidemment.
Pris la main dans le sac!
Puis, depuis le début de cette commission-là, on voit comment les procureurs travaillent. Au début, la première partie du témoignage, ça se passe assez bien. Les gens se disent « Oh, il me semble que ça se passe bien. » Pendant la pause, là, ouais, une petite zone de confort.
On les met à l'aise.
Il doit y avoir des petits textos là, pendant la pause qui disent « Ça se passe bien, mon affaire. »
Ça
les employés, les amis. Et en deuxième partie de témoignage, souvent, les choses se corsent. On prend des déclarations qu'on a dites. On les met en opposition avec des courriels, avec des preuves, avec des propos de d'autres témoins, etc. À date, là, évidemment, ça se poursuit. Ça se passe correctement pour le premier ministre. Qu'est-ce qu'on essaie de comprendre avec M. Legault? Parce qu'un premier ministre, c'est très haut niveau. Ce n'est pas quelqu'un qui gère le fin détail du quotidien, du tout, du tout. Donc là, on a revisité plusieurs événements importants là, du fil chronologique.
Exactement.
Et notamment le fameux tweet de Mitch Garber qui a provoqué un échange courriel entre différents employés. Le tweet de Mitch Garber qui disait, en fait, qu'il trouvait que c'était très cher, là, un projet à 500 millions pour la SAC.
Moi, ce que je voyais dans les commentaires, c'est qui est Mitch Garber? On l'a connu dans Les Dragons, on sait que c'est un homme d'affaires et mérite quand même au Québec, mais pour le commun des mortels, Antonine, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Il est-tu en politique, Mitch Garber? Il y avait plein de points d'interrogation.
En fait, il a souvent intervenu dans l'espace public, Mitch Garber, sur plusieurs sujets, comme d'autres hommes d'affaires. On peut penser à Primo, à Lambert. On a plein d'hommes d'affaires au Québec qui, des fois, là, entrent dans la mêlée puis font des critiques de la gestion gouvernementale.
Il manque Luc Poirier, ce temps-ci.
Luc Poirier, il manquerait juste Luc Poirier. Et M. Legault le connaît et ça a provoqué chez lui, dans le fond, des questions face à son équipe. Il s'est retourné vers son équipe puis il a dit, là, y a-tu quelqu'un qui peut me dire, ben, premièrement, pourquoi Mitch Garber tweet ça? Puis est-ce qu'effectivement, c'est cher ou c'est pas cher? Donc, ça a donné lieu à un échange courriel qu'on avait vu passer précédemment là, dans la commission et qui démontrait que ben, le premier ministre était au fait qu'il se passait quelque chose.
Il était au fait que ça allait pas bien avec le dossier. Ça clique autant au niveau des échéanciers qu'au niveau budgétaire.
Il y avait un petit drapeau rouge, on va dire ça comme ça.
Mais même là, si les indicateurs étaient ouverts sur les napperons.
Ah ben là, les napperons, là, oui, ça c'est une autre affaire. On a aussi revisité le courriel de Geneviève Guilbeault qui, à un moment donné, là, excusez-moi l'expression, mais pète sa couche, envoie un courriel au premier ministre qui dit, là, personne ne me protège, mon PDG, il est pas bon, là, je résume.
C'est un merdier, ça a été des mots employés.
Et moi, je ramasse le merdier. Donc, on a revu aussi cet événement-là. Mais qu'est-ce que la commission essaie de faire? C'est de comprendre qui savait quoi, qui a décidé quand, qui autorisait quoi, qui a fait en sorte qu'on s'est rendu à un dépassement de coût de 500 millions. Puis moi, ce qui m'intéresse encore plus, je vous disais qu'on va pousser plus loin, c'est qui aurait pu changer la trajectoire de ce train fou, là, si on peut dire ça comme ça, parce que, évidemment, quand le projet est bien entamé, qu'on a déjà dépassé beaucoup d'argent, on connaît rien tout le monde en informatique en plus, comme qui aurait pu dire, wow, là, c'est mal enligné ce projet-là? Est-ce que, par exemple, en 2022, on aurait pu dire, là, on va mettre un stop là-dessus, ou est-ce que finalement, ça aurait coûté encore plus cher. C'est, évidemment, le rapport risque
en plein ça.
Risque
de nous dire
chose,
ça parce qu'on est passé de 458 millions à 682 millions et là, 1,1 milliard. Je reviens sur Geneviève Guilbeault. Moi, selon moi, elle est morte depuis ce moment-là, 3 décembre 2024.
Madame la présidente, quand je suis arrivée au transport il y a 2 ans, c'était un peu un fouillis, l'affaire du financement du transport collectif.
Wow.
Avec la pandémie... Pardon?
J'ai dit François, il est
pas là. Non, mais attendez, j'ai pas fini! J'ai pas fini!
Le malaise.
Faut-tu que je m'assoie?
Les partis d'opposition sont crampés. Et là, on va essayer de prendre ça.
Nous allons poursuivre. Il y a le chronomètre qui tourne, mesdames, messieurs. Alors, j'aimerais entendre La réponse.
Oui, alors, c'est un fouillis, Madame la Présidente. Non pas, parce que mon prédécesseur n'a pas bien fait son travail. Rien à voir.
Et là, elle embarque sur c'était la COVID, etc. Mais à partir de ce moment-là, où François Legault reprend Geneviève Guilbeault en pleine Assemblée nationale devant tous les parlementaires, moi, je me suis dit, elle est cuite et elle le savait qu'elle était cuite parce que deux semaines plus tard, elle écrit le fameux courriel à François Legault, son courriel où elle se vide le cœur.
Je pense que c'est quelque chose qui va ressortir aussi de tous les témoignages, c'est que la transition et la relation entre le cabinet de Bonnardel et celui de Geneviève Guilbeault, visiblement, ça ne se passait
c'était
pas dans l'harmonie.
Là. Non, non, exactement.
Et Mme Guilbeault, ben, il est arrivé plusieurs événements qui ont fait en sorte aussi que sa cote de popularité à l'interne a baissé. Là. Évidemment, quand il y a eu le déplogage de Troisième Lien au printemps 2023, si je
oui,
ne m'abuse.
Oui, exactement.
Il y avait eu, bon, c'était sorti un peu dans les chroniques, dans les médias, qu'il y avait plusieurs personnes qui n'avaient pas été mises au courant, qui n'avaient pas été consultées.
Bien, entre autres, moi, on me dit de sources sûres que le ministre de la Capitale-Nationale, Jonathan Julien, n'était même pas au courant.
Bien, en tout cas, on avait beaucoup de rumeurs, qu'il y avait pas mal gens pas très contents contre le cabinet. Il y avait eu ça. Après ça, on a demandé à Mme Guilbeault de reploguer le troisième lien, de retourner à la guerre sur le troisième lien. On l'a mise dans une drôle de position, là, en même temps. Mais les relations n'étaient pas faciles, visiblement, entre la ministre et ses collègues. Et là, de cet extrait que tu nous as mis, ben ça, c'est comme si Mme Guilbeault, sans le vouloir, parce que je pense qu'elle parlait, en fait, contre les sociétés de transport. Je veux juste être...
Ben, c'est clairement ça, parce que oui. Ce qu'elle disait, dans le fond, et je suis tout à fait en accord avec elle, c'est qu'elle disait, pendant la pandémie, on les a financés parce que là, il y avait moins de gens à transporter, mais on voulait pas que personne perde son emploi parce qu'on savait bien qu'à un moment donné, le monde retournera au travail.
Elle reproche pas la décision à François Bonnardel.
Du tout.
Mais elle dit que le résultat, c'était que c'était
Et là, elle mentionne, bien là, ils ont pris l'habitude de faire des déficits, fait qu'ils sont toujours en train de nous quêter. Moi, je mets un frein à ça et c'est là, justement, qu'avaient émané les fameux audits performants.
Et voilà, tout ce qui s'en est suivi. Mais le premier ministre, dans l'extrait, lui coupe la parole.
Oui.
C'est très rare que ça arrive.
Ben moi, en tout cas, c'est la première fois que je voyait. Là.
Mais il l'avait fait avec sa femme.
C'est moi qui parle.
Mais clairement, il sait que ses propos seront retenus contre lui. Pour la suite des choses, à ce moment-là, il y a quelque chose qui, selon tout doute qu'on pourrait avoir, là, puis ça commence un peu, si
mais
on prend les puzzles.
Il y a surtout un doute, visiblement, chez le premier ministre, que Geneviève Guilbeault n'est pas une joueuse d'équipe, qu'elle a un risque. En fait, ils ont peur qu'elle jette des gens sous l'autobus. D'ailleurs...
Mais est-ce que tu penses, si on fait une parenthèse là-dessus, est-ce que tu penses que c'était ça, elle n'est pas une joueuse d'équipe, où elle voit que ça commence à être chaotique et elle souhaite les lumières allument.
Elle se voit comme une joueuse d'équipe parce que, justement, dans le courriel qu'elle envoie à M. Legault qui dit « Personne ne me protège, mais moi, je suis en train de ramasser le fiasco. » Puis moi, j'ai toujours acheté cette version des faits de Mme Guilbeault qu'au point où le projet en était à son arrivée...
Elle a toujours pris les coups, Geneviève Guilbeault. Après les coups du troisième lien, elle prend les coups de Satellic, elle a pris les coups du financement
d'équipe.
Des sociétés de transport.
Je trouve ça sévère.
Oui,
peut-être
que, je vais le dire comme ça, là, peut-être qu'à l'intérieur du caucus, quand elle s'exprime, bon, elle vient irriter
elle marche sur des orteils.
Elle vient irriter des égos et tout ça. Mais en termes de joueuse d'équipe, puis je suis content de voir que François Legault ne l'a pas pitché en dessous de l'autobus à matin. Là, parce qu'en termes de joueuse d'équipe, elle en a pris des coups pour la
CAQ. Elle en a pris des coups pour l'équipe. Donc, elle, probablement, puis là, je ne suis pas dans sa tête, mais j'essaie de me mettre à sa place. Là. Probablement qu'elle se dit « Hey, j'ai ramassé ce fiasco-là,
ben oui.
Duquel je ne suis pas responsable, même si les gens aiment ça. »
Et on se le rappelle,
pierres,
avec trois phrases dans un courriel qui dit « Les indicateurs sont au vert », elle ramasse ça à ce moment-là. Là. Elle a fait preuve de laxisme, elle prend en lisant pas ses courriels puis les pièces jointes.
On ne dit pas qu'elle est parfaite, mais c'est pas vrai que c'est la grande responsable de ce qui s'est passé. Là, elle passe en commission, elle se fait ramasser. Elle s'est
clairement
fait ramasser beaucoup plus que M. Bonnardel et beaucoup plus que plein
de moi, j'ai trouvé que le commissaire était plus entreprenant avec elle qu'il l'était avec M. Bonnardel. Et Bonnardel aussi a fait ces erreurs-là de laxisme, là, de prendre de l'information à la légère.
Exactement. T'sais. Donc, pour Mme Guilbeault, elle se retrouve dans cette situation-là. Elle se fait traiter de pas une joueuse d'équipe ou elle se fait sentir qu'elle n'est pas une joueuse d'équipe. Et là, ben, l'épreuve ultime, ça va être le remaniement ministériel, qui on ne sait pas c'est quand, mais si M. Legault devait donner l'impression que Mme Guilbeault a une démotion, par exemple, perdre son titre de vice-première ministre et venir un peu la punir parce qu'elle est brûlée, entre guillemets, ben, c'est comme de venir dire, ben, regarde, tu vois, t'as mal agi. Moi, si j'étais à sa place, je serais pas très contente.
Je veux t'entendre sur le remaniement ministériel, mais avant, je te fais jouer un extrait du commissaire Galland avec François Legault ce matin qui le questionne par rapport à est-ce que 700 millions de dollars, c'est assez pour que ça monte au bureau du PM? Je vais entendre ta réaction par la suite.
Pour revenir à la question de Maître Tremblay, puis moi, ce qui m'intéresse là, à savoir là, dans le volet qui savait quoi, là, Septembre 2021, il y a un chiffre là, qui apparaît là, à vos ministres, là, 682. Là. Moi, il me manque 18 millions, puis ça fait 700 millions. Là. Est-ce que ça, c'est suffisamment important, 500, 700 millions, là, pas loin, là, 680, de monter ça minimalement là, au bureau du PM?
Okay.
Parce qu'il peut y avoir des questions là-dessus. Là, bien
avec respect... Je vous corrige. Quand la vérificatrice générale dit qu'il y a un dépassement de 500 millions, c'est 600 millions qui est passé à 1,1 milliard. Donc, à part pas du contrat de 458 millions, à part du 600. Donc, 600 qui est rendu 1,1 milliard. Puis le gros morceau, ce que je comprends, c'est le contrat qui était mal négocié en 2017, là.
Deux choses par rapport à ça. T'es, premièrement, est-ce que justement le dépassement de coûts de 458 millions à 682, c'est assez important dans une machine gouvernementale? Toi qui as déjà été à l'intérieur d'une machine comme ça pour que le premier ministre fasse « Oh, j'ai un flag rouge ». Puis deuxième chose, c'est-tu vraiment à faute du contrat des libéraux en 2017?
Oui, c'est deux excellentes questions. Premièrement, quand on est dans des dépassements de coûts de 200 millions, je veux pas dire que c'est pas beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, OK? Mais des dépassements de coûts au ministère des Transports, je veux juste dire que c'est le quotidien de la vie, là. OK? Puis il y en a eu plein, puis les gouvernements préfèrent souvent communiquer proactivement là-dessus. Quand il y a eu le dépassement de coûts sur le tunnel à Montréal, La Fontaine, le gouvernement a fait beaucoup de communication proactive là-dessus. Est-ce que le premier ministre est directement impliqué à ce moment-là? C'est comme un petit peu sur la ligne. C'est-à-dire, son équipe va l'avoir dans son panorama, mais est-ce que ça devient une crise à gérer? La réponse, c'est non, là, pas à ce prix-là.
Donc, je m'excuse de t'interrompre, mais dans le fond, de 458 millions à 682, c'est pas assez important pour qu'on alerte le premier ministre.
Bien, moi, en plus, ce que je voyais dans ce témoignage-là, puis M. Galland, le commissaire, l'a souligné, vous êtes comptable, là, vous savez compter.
Oui.
Vous êtes homme d'affaires.
Exactement. Puis M. Legault l'a quand même dit à plusieurs reprises depuis ce matin, j'aurais dû être plus informé, on aurait dû poser plus de questions.
Il y a quand même
des aveux d'une certaine forme de candeur. Là,
est-ce que la CAQ avoue autant avec... Avoue par François Legault, parce que je peux pas dire par Geneviève Guilbeault et François Bonnardel qu'il y avait plus des trous de mémoire que des aveux, qu'on a été, justement, qu'on a usé de laxisme dans ce dossier-là. C'est comme si on s'était dit, oh, on va y arriver, ça y va, le monde nous dit que ça va coûter plus cher, mais pas tant que ça.
Ouais.
Les dépassements de coûts, c'est normal. On dirait que pour le gouvernement, c'est normal, les dépassements de coûts. Donc, allons-y, puis là, bang, on s'est retrouvés avec justement ce fiasco-là.
Bien, en plus, c'est qu'on regarde ce qui s'est passé dans toute la chronologie avec nos yeux d'aujourd'hui. On sait plus de choses, hein, évidemment. Fait qu'on essaie de juger de leurs actions à travers tout ce qu'on sait. On peut pas dessavoir ce qu'on sait maintenant. Fait que c'est difficile de ne pas être sévère. Mais c'est vrai que, moi, je pense qu'il y a eu une forme de négligence, qui aurait dû avoir plus de questions qui soient posées. La relation de confiance entre un cabinet et une société d'État, généralement, ça se passe bien. Et on s'attend à ce que c'est... organismes-là nous disent les vraies choses. Moi, ce que je vois dans tous les témoignages, dans toutes les preuves à date, c'est que la SAAC ne donnait pas le juste portrait. Il y avait toujours des tentatives de banaliser, d'amoindrir, d'étaler, de mettre ça pas clair. Ça, on le sent beaucoup. Par contre, quand tu es dans un cabinet, puis si c'est pas clair, puis tu n'as pas bien compris, là, tu peux pas juste passer au dossier suivant. Puis j'ai entendu beaucoup de témoins dire, vous savez, on a beaucoup de dossiers, on est dans le jus. Je suis désolée, mais cette défense-là, moi, je... Puis en plus, j'ai travaillé en cabinet, on embrasse du vent, là, puis il y en a des inefficacités, OK? C'est pas vrai que quand tu comprends pas le napperon, la chose à faire, c'est de passer au prochain dossier.
Puis c'est
pas
ce qui est évoqué énormément en ce moment à la commission Galland. Moi, j'écoute ça depuis que je me suis branchée là, au début du témoignage de François Legault aujourd'hui. Je l'attendais avec intérêt. Puis ce qui ressort énormément, c'est ça. C'est... On n'a pas posé assez de questions parce qu'on était dans le jus, mais on aurait dû.
C'est vrai que c'était la pandémie aussi, du moins dans une partie là, de cette chronologie-là, c'est vrai que c'était la pandémie. Puis la SAAC, là, il répondait même pas au téléphone pendant la pandémie. T'sais, il y avait des gros, gros, gros problèmes. Qu'est-ce qui est en feu? Là, mais ça devient ça, l'urgence. Puis on le comprend. Mais maintenant, à un moment donné, quand on est dans des centaines de millions de
avec l'argent des contribuables, voilà. Puis on fait beaucoup la dissociation dans l'enveloppe là, depuis le début du témoignage de François Legault, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on part de ce 400 millions-là aux 600 millions en disant « Oui, oui, mais attendez, il y a ce qui est fait avec la base et il y a ce qui est fait à l'interne. Mm-hmm. » Donc, le 600 millions, c'est aussi le travail de l'interne et ce n'est pas juste aux firmes qu'on a donné, parce qu'ils ont donné des enveloppes d'argent à certaines firmes, trois firmes entre autres, et ça, c'est dans le 400 millions. Mais le dépassement à 600, c'est aussi sur l'interne.
Ça, je veux t'entendre là-dessus, Antonine, parce que le commissaire Galland a justement dit à François Legault, oui, mais à un moment donné, il y a un coût au projet. Mm-hmm. Puis tu peux pas dire que parce que c'est des ressources en interne qui sont attirés au projet, que ça n'existe pas. T'en penses quoi? Moi, je suis d'accord avec le commissaire Galland.
Mais ça ajoute à la confusion un peu. C'est ça l'affaire. C'est qu'à un moment donné, puis je le comprends aussi, t'es devant des colonnes de chiffres, puis... Des fois, dans la stratégie contractuelle, là, c'est un peu du jargon, mais c'est vrai que des fois, il y a des choses qui tout à coup coûtent moins cher, on transfère des fonds. C'est pas toujours très clair qu'il s'agit d'un dépassement de coûts. Puis je reviens à ta deuxième question tantôt, Jeff.
Oui, les libéraux.
Bon, moi, je pense que dans les recommandations du commissaire Galland, à la fin, dans le rapport, il va avoir des recommandations très importantes sur les appels d'offres et les contrats. Parce que, oui, c'est sûr que pour le premier ministre, c'est avantageux de dire, écoutez, là, le contrat avait été mal fait. Qui assume le dépassement de coûts? C'est important. Oh, oui. Et il a raison, puis ça l'avantage politiquement. Mais sur le fond des choses, c'est essentiel. On manque de compétences à l'interne dans les ministères et organismes en informatique. Les gens sont dépassés par les événements dans la machine gouvernementale. Mais la manière dont on fait même les appels d'offres au départ, une compagnie va vous dire, bien, moi, je veux bien assumer les dépassements de coûts, mais quand c'est de ma faute, parce que des fois, les dépassements de coûts, c'est dû aussi à l'incompétence dans l'appareil gouvernemental. Donc, les entreprises ne veulent pas aller de l'avant avec des contrats où est-ce qu'on dit, moi, si les fonctionnaires niaisent, si politiquement, il arrive des choses qui font en sorte que ça retarde, puis en passant dans les projets de transport, ça arrive tout le temps. Là. On plug, on déplug. T'sais, tout ça, là, les entreprises sont tout le temps en train de dénoncer ça. Mais en informatique aussi, c'est la même chose. Bien, ils ne voudront même pas participer à des appels d'offres où on dit, bien, vous êtes responsable des dépassements de coûts, puis si c'est de notre faute, mais vous êtes responsable, pareil.
Je saute au remaniement ministériel. Pablo Rodriguez a dit ceci sur Geneviève Guilbeault et François Bonnardel en point de presse aujourd'hui.
La première ministre, le vice-premier ministre, a menti sous serment lors de son témoignage à la commission Galland. Pourquoi est-elle encore vice-premier ministre? Pourquoi est-elle encore ministre? La directrice de cabinet, le bras droit de François Bonnardel, a trafiqué des documents. Les mêmes documents qu'il a lui-même déposés à l'Assemblée nationale. Pourquoi est-il encore ministre?
Antonine Iaccarini, t'es la première ministre du Québec demain matin. T'es Médor, Guilbeault, Bonnardel ou t'es garde?
Moi, quand je regarde le fil des événements et les témoignages, sur le fond des choses, puis je comprends qu'il y a de la politique à travers ça, mais... Pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas lieu de les punir comme tel. Et surtout, avant d'avoir le fin mot de l'histoire, tu ne peux pas dire, comme premier ministre, ben, je vais les punir, parce que là, tu viens comme dire, ben, vous avez raison de penser ça. Par contre, l'autre demande de Pablo Rodriguez, c'est de mettre la SAAC sous tutelle. Donc, le premier ministre, là, il a donné deux choix. Fait que c'est sûr que, tu sais, mettons, quand on donne des faux choix là, à nos enfants, là, veux-tu le vert bleu ou le vert jaune? Là,
ben, mais tu vas le boire, ton lait.
Ben, tu finis par boire ton lait. Fait que là, M. Legault, il va sauter probablement sur l'idée de la tutelle en mettant en veilleuse la question de ces deux ministres. Puis évidemment, avec le remaniement, ben, ça va être une occasion de rebrasser les cartes. Puis il y a plein d'autres affaires qui rentrent en considération à part la commission Galland pour le remaniement ministériel. Il a demandé aussi à ses ministres s'ils se représentaient en 2026.
En effet.
Pour essayer de le justifier autrement. Mais moi, je pense que si M. Legault punit M. Bonnardel ou Mme Guilbeault, il vient dire aux gens « ce sont les coupables ».
Il vient faire le rapport avant le rapport.
Puis s'il le fait pas, s'il les punit pas, ben les gens vont avoir une impression d'impunité, de non-responsabilité, de non-imputabilité.
C'est le point majeur.
Donc, c'est très dur. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour passer, là, M. Legault.
Par texto, sur Twitch, c'est le point majeur. On revient toujours à l'imputabilité en se disant « OK, parfait, mais on fait tout ça pour rien. » Puis le seul qui a dit « Il va y avoir imputabilité là-dedans, j'irai au fond des choses avec transparence », c'est François Legault. Oui. Il est au pied du mur en ce moment. Est-ce qu'il va réussir à amener cette mission-là à terme? Il y en a beaucoup qui doutent, là.
Bien, moi, je pense que cette commission-là, elle est hyper utile. Je pense que les gens voient aussi que c'est rough pour le gouvernement. Ils ne sont pas épargnés comme tels. Les recommandations vont être importantes. Puis oui, on peut avoir envie qu'il y ait des têtes qui roulent, et je le comprends, parce que ça prend une responsabilité, mais ça s'est étalé sur 10 ans, cette affaire-là. Je ne veux vraiment pas être plate puis casser le party, mais c'est sûr que la responsabilité, elle est très diluée entre plein de personnes. Une négligence ici, une petite affaire ici. Mais l'autre élément qui est hyper important, c'est l'enquête de l'UPAC. Parce qu'on n'aura pas la conclusion de cette enquête-là avant le rapport Galland. Mais on parle de fraude, de fractionnement, on parle de fabrication de faux. C'est des choses très importantes qui se seraient passées à la SAC. Évidemment, on parle au conditionnel, ça n'a pas passé le test des tribunaux, l'enquête se poursuit. Mais c'est un morceau important qui vient un peu nourrir l'idée que les ministres n'ont jamais eu le portrait complet. Si on a des gens à l'intérieur de la SAC qui ont fraudé puis qui ont caché des choses, bien, on peut s'attendre à ce qu'ils faisaient un peu la même chose avec les cabinets ministériels. Donc, c'est important, oui, de trouver un coupable, mais je pense que c'est surtout important qu'on jette les bases pour ne plus avoir de fiasco comme cela. Il y en a tellement eu des fiascos informatiques, c'est pas le seul.
Et il y en a d'autres à venir avec santé numérique, donc il faut vraiment prévenir le tout. Je suis tellement d'accord avec toi. Je termine cet excellent caucus Iaccarini en te posant cette question-là. Qui prend les rênes de la SAC si on les met en tutelle?
Bien, c'est ça. Pablo Rodriguez suggère que ce soit une firme externe. Moi, ça me fait rire un peu parce que les oppositions sont toujours contre les firmes, sauf que là, on propose des firmes.
Là, c'est une firme externe qui est dans le fiasco, ça clique aussi. Fait que je sais pas, il me semble que ça tourne pas rond. Là.
C'est la preuve qu'on dénonce quand ça fait notre affaire, mais quand les firmes, on s'en sert quand ça fait aussi notre affaire. Ça pourrait effectivement. Parce que dans le fond, ce que Pablo Rodriguez dit, c'est qu'on n'a pas confiance au gouvernement. On dit on veut mettre la SAC sous tutelle, mais ça peut pas être le gouvernement Legault qui gère cette tutelle-là. Je sais pas. Écoutez, on est ouvert aux suggestions. Il y a peut-être des gens à la maison qui ont des idées de comment gérer ça.
418-971-1021, c'est la question à 1 000 $. Il y a Claude André qui écrit et ça va avec ce qu'on pense, moi, toi, Antonine, et je suis certain Pascal également. J'aimerais dire que l'on voit les risques et traîtrises de la politique. Ainsi, on va sacrifier la carrière de Geneviève Guilbeault. Elle paiera plus que sa part. Dommage quand même. En effet, elle ne mérite pas ça. C'est pas elle la responsable ultime du fiasco, ça clique, est arrivé puis la maison brûlait déjà pas mal. Là. Je vais te dire une affaire pour ne pas dire que la maison était passée en totalité au feu.
Ses collègues, pourrais-tu la défendre
on
là-dedans
pas,
pour
on
la suite?
On sent pas beaucoup de volonté, non, hein? Mais j'ai l'impression que le boomerang est en train de revirer de bord, c'est-à-dire que les gens commencent à le réaliser que c'est pas nécessairement de sa faute. Par contre, les éléments sur lesquels elle s'est fait prendre n'a pas tout à fait avoir dit, tu sais, ça aussi, c'est quand même,
encore.
Ça existe quand même.
Antonine, merci infiniment. On refait ça du lundi au jeudi à partir de midi. C'est le caucus Iaccarini. On va avoir énormément de plaisir à parler politique ici avec Antonine Iaccarini, Pascal CV. Merci de contribuer à cette émission. On jase le midi.
Grand plaisir. À demain.
À demain. Alors, vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1. C'est On jase. On en jase le midi avec Jeff Fortin et Pascal CV. Courte pause et par la suite, on fait le tour de l'essentiel de l'actualité. Et Pascal veut nous parler des poursuites judiciaires contre Gérard Depardieu pour agression sexuelle. On parle de tout ça après cette courte pause. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1.